Radio de la Paix, il est 12h. Le journal du midi, César Yao.
Bonjour à tous, le sommaire de ce jeudi midi. Le président de la commission électorale indépendante a échangé hier mercredi avec les étudiants de l'université Alassane Ouattara de Boaké sur les élections. Coulibaly Cuibière, Ibrahim a donné deux raisons pour lesquelles l'on doit faire confiance à la CEI. La première étant sa composition inclusive et la deuxième concernant les garanties quant à l'exécution de la mission. Spectre d'une pollution au cyanure dans le fleuve Cavalier, selon le professeur Bernard Osseiapo, directeur du Centre Ivoirien Anti-Pollution. Les équipes sont sur le terrain pour confirmer les données sur l'impact sanitaire et les examens ont confirmé qu'il y a eu une pollution des eaux. Dans l'actualité internationale au Mali, au moins 21 villageois tués par le JNIM à Guigui-Bongo dans la région de Bamba-Diara, dans le centre du pays. Et en fin d'édition, dans le cadre de l'invité de la rédaction, Jean-Claude Comé recevra le juriste et expert en droit immobilier Jean-Louis Lobé pour parler de la loi en matière locative en Côte d'Ivoire adoptée récemment en Conseil des ministres. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. À l'initiative de l'unité de formation et de recherche des sciences juridiques, administratives et politiques de l'université Alassane Ouattara de Boaké, le président de la commission électorale indépendante a échangé hier mercredi avec les étudiants sur les élections. Cette activité qui s'inscrit dans le cadre de la campagne d'information et de sensibilisation de la CEI a permis d'éclairer la lanterne des uns et des autres, nous dit Joseph Assalé, notre correspondant sur place.
Dans ses propos liminaires, le conférencier a instruit l'auditoire sur le cadre spatial de l'élection, à savoir la circonscription électorale et la cartographie électorale. Coulibaly Cuibière, Ibrahim.
La circonscription électorale est le cadre dans lequel l'élection va se mouvoir. La cartographie électorale, c'est le répertoire de tous les lieux de vote. Le citoyen doit se déplacer pour aller mettre son bulletin dans une urne où c'est ce lieu-là qu'on appelle le lieu de vote et puis le bureau de vote. Alors l'université peut être un lieu de vote et le bureau de vote peut être un amphithéâtre.
Puis il a souligné que l'on perd la qualité d'électeur par décès ou par condamnation suite à une infraction. Toutefois, le président de la commission électorale indépendante a fait cette précision.
L'amnistie se distingue de la grâce parce que l'amnistie, c'est l'oubli. On oublie que vous avez commis une faute, vous devenez comme avant. Donc on vous remet sur la liste électorale. Mais la grâce, à la différence de l'amnistie, on vous pardonne. On n'oublie pas. On dit tu n'as pas purgé la peine, mais on sait que c'est toi qui l'as fait. Parce que votre casier judiciaire est affecté. Alors que celui qui a été amnistié, lui, son casier judiciaire devient vierge.
Les étudiants se sont dit désormais aguerris.
Goji Maëli Sephora, cette conférence a éradiqué au moins l'ignorance, les zones d'ombre que nous avons.
Des documents électoraux ont été remis au personnel enseignant de l'université Alassane Ouattara de Boaké. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Et tout de suite, direction Iré, ou en marge des violences qui ont secoué mardi, donc la mairie de cette localité du département de Divo. Le président de l'Union des jeunes du RHDP, Soulé Mustapha, qui se présente comme l'artisan de la fronde contre le maire Gilbert Francis Kakou, à cause du retour de celui-ci au PDC-IRDA, son parti politique originel, a donné davantage des détails sur n'est-ce pas ses motivations à la faveur d'un point presse. Voici ses explications.
En effet, nous avons élu le maire Gilbert Kakou Francis le 2 septembre dernier sur la bannière du RHDP. Et à notre grande surprise, il a basculé la semaine passée au PDCI. Étant militant et premier responsable des jeunes, nous lui avons juste demandé de libérer le tabouret, de libérer notre mairie parce qu'il a trahi notre confiance. Il a trahi notre confiance parce que pour ces élections, nul n'était le RHDP, il ne pouvait jamais gagner ces élections. Aujourd'hui, avec le nombre de votants qu'on a sur la liste électorale, le RHDP peut gagner toutes les élections, que ce soit présidentielle, législative ou municipale. Puisqu'il allait au PDCI sans prendre l'avis des conseillers RHDP, nous allons aider les conseillers à demander sa démission purement et simplement. Parce que si 50 conseillers, le PPAC a 7, le RHDP a 26 actuellement et le MEN a que 12 conseillers.
Dans ce cas d'espèce, que prévoit la loi ?
La procédure va sur son cours parce qu'on a gagné à 86% à ce moment étant un groupement politique, le RDE, le PDCI. Et on l'a élu en 86%. Il a l'eau au PDCI après les élections.
Voilà, c'était le président de l'Union des jeunes du RHDP de Iris Soulé, Mustapha, dans des propos recueillis par notre correspondant dans le Goy-le-Log, Iboua, Bel César Kassin. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Et puis le délégué PDCI-RDA de Iris Commune, Comminant Gustave, qui a donné les raisons du retour du maire Gilbert Francis Kakou au PDCI, a condamné les actes de vandalisme commis par des militaires. Temps du RHDP.
Voyez-vous, Iré, c'est une ville de paix. C'est une ville où règne la cohésion entre toute la population, entre tous les habitants de Iré. Et ceux qui sont en train de manifester aujourd'hui le savent bien. Iré est en même temps une ville minière, 3000 d'or. Et il est resté comme on constate. Il s'agit de quoi ? En 2015, Gilbert Kakou a été élu député de Iré Zégou. En 2018, il a été élu maire de la commune de Iré. Une semaine après, JF Kakou est parti au RADP. Au motif que lui, il va pour le développement de Iré. Il nous a dit, souffrez que je parte parce que j'aime Iré au même titre que vous. Je vais partir pour que Iré soit développé. Je m'en vais pour que Iré soit développé. Et c'est ainsi que nous, dans la résilience, on l'a laissé partir. Après 5 ans, le constat est là. Iré n'a pas évolué d'un iota. Il est devenu la risée de la population. Tout le monde se moque de lui. Tu es allé au RADP pour nous donner le développement. Voilà que Iré est resté toujours gros village. Le monsieur, comprenez-le, il est frustré. Ceux-mêmes qui crient aujourd'hui, ils le savent. Iré, c'est une ville de paix. Alors moi, quand je l'ai appelé, il m'a dit, on a un conseil. Il a dit, mais qu'est-ce que je fais ? Il dit, non, il n'aura rien. Mais quand on a constaté que le RADP venait casser, la mairie de Iré a été construite par nos parents.
Voilà, c'était le délégué PDCI de Iré Commune, Comminant Gustave. Mais alors, que prévoit la loi quand de telles situations se posent ? Selon le spécialiste du droit administratif, Dr. Landry Amoussou, le maire de Iré est dans son droit, car la législation ne dit rien sur la question. Par conséquent, un élu peut changer d'obédience politique au cours de son mandat. Nous l'écoutons.
C'est quelque chose de nouveau, donc les textes n'encadrent pas véritablement ce qu'on qualifie désormais de transhumance politique des élus. C'est une question nouvelle, elle va effectivement susciter des débats un peu plus poussés et inévitablement on verra comment l'insérer dans notre corpus juridique dans les futures années. Sinon pour l'heure, il est dans son droit, il fait élu RHDP et après passer sur la bannière PDCI.
Au niveau des électeurs, est-ce que la transhumance des électeurs est encadrée par la loi ?
Oui, depuis longtemps, on avait effectivement senti le danger de voir des électeurs quittés Abidjan pour aller voter à Yamoussoukro. Depuis très longtemps, c'est encadré, c'est interdit et c'est puni par la loi. Donc je pense que dans quelques années, ça va forcément susciter un dispositif juridique un peu plus avancé pour éviter que les électeurs finalement se trouvent trompés après le vote.
Mais notamment au niveau de ces électeurs, est-ce qu'il n'y a pas lieu de mener une sorte d'éducation ? Est-ce que la solution est aux manifestations pour les électeurs d'aller semer le trouble parce que le conseil municipal n'a pas pu se tenir ?
Ces actes de violence là sont condamnés, condamnables. Pour l'heure, le mandat, il est en cours, le monsieur est dans son droit. S'il y a lieu de se plaindre, il faut attendre aux futures séances électorales pour sanctionner le maire. Mais pour l'heure, il est dans son droit. Et le fait de troubler le conseil municipal, tous ces éléments-là peuvent être effectivement susceptibles de poursuite au pénal.
À l'instant, le spécialiste du droit administratif, Dr. Landry Amoussou, vient par Constant Maïlé. Le Vicossi Union des villes et communes de Côte d'Ivoire sera en assemblée générale élective demain, vendredi à Yamoussoukro et en prélude à l'événement, elle organise en ce moment même un séminaire de renforcement des capacités de ses membres. On en sait un peu plus avec Émile Yao.
Le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Uvic aussi, dans Claude Paulin, sur les enjeux de ce séminaire de renforcement des capacités.
En prélude à l'Assemblée générale élective qui va tracer les sillons de l'avenir de notre fêtière, nous avons voulu organiser un séminaire de renforcement de capacités qui devrait permettre aux maires, sur toutes les thématiques que nous allons évoquer, d'avoir des compétences renforcées. Il s'agit de maîtriser l'état civil, de se projeter sur la question épineuse du changement climatique. Il s'agira pour nous aussi de comprendre le rôle que peut jouer le Parlement dans la consolidation des acquis de la décentralisation. Nous avons voulu aussi avoir des échanges sur les expériences vécues avec tous ces partenaires qui soutiennent l'UVIC aussi et qui nous accordent leur confiance.
D'où l'importance de ce rendez-vous pour les gestionnaires des cités, estime le maire d'Atécoubé, d'en haut Claude Paulin.
Ce séminaire est important et ensuite, c'est chargé de toutes ces compétences et de toute cette énergie que nous pouvons nous projeter en Assemblée Générale, déterminer la vision que nous voulons donner à notre organisation pour construire une union forte.
Belle opportunité pour le maire de Korogo, Ouattara Lassina.
C'est une bonne chose pour nous de venir se former sur l'état civil. C'est vraiment important. Et nous sommes fiers d'être là pour apprendre. Parce que nous, on vient d'arriver dans la maison.
Comprendre et gérer une commune, c'est autour de ce thème que se tient ce séminaire qui débouchera ce vendredi 5 juillet sur l'élection d'un nouveau président à la tête de l'UVIC aussi. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Renforcement de la coopération entre le groupe de la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire, Ousmane Diagana, le vice-président de l'institution bancaire mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, effectue une visite en Côte d'Ivoire du 4 au 10 juillet. Sinon, cette visite de ce haut responsable de la Banque permettra de passer en revue les différents projets financiers et la définition des axes de coopération future. Depuis le 23 juin dernier, la Côte d'Ivoire est secouée par une affaire de pollution au cyanure du fleuve Cavalli. Selon le Centre ivoirien anti-pollution, qui, tout en soutenant l'existence de cas de contamination, affirme ne pas pouvoir confirmer la centaine de personnes, environ 185, que la rumeur dit contaminées, suivant les explications du directeur du CIAPOL, professeur Bernard Osseyapo.
Je n'ai pas l'information exacte du nombre de personnes intoxiquées, je n'ai pas les statistiques, mais tant que les faits sont aussi avérés en termes d'intoxication de personnes qui étaient en contact de cette pollution, donc qui subissent, si vous voulez, les effets de cette pollution. Et cela est possible. Mais nous n'avons pas une statistique vraiment fiable qui nous a été communiquée.
Alors, ces personnes intoxiquées ont-elles bu l'eau du fleuve ou ont mangé quoi par rapport à cette pollution?
Les investigations continuent dans ce sens parce que là, les faits nous ont été révélés le 23 juin. Nous, ce que nous avons fait, c'est de faire l'évaluation environnementale. Les pas sanitaires, nous n'avons pas suffisamment documenté. Et c'est dans cette mouvance que nos équipes sont reparties sur le terrain en train de confirmer, si vous voulez, les données en termes d'impact sanitaire. Mais en termes d'impact environnemental, ce sont des données assez révélées parce que nous avons fait des prélèvements d'échantillons, nous avons analysé, nous avons des résultats qui montrent effectivement qu'il y a eu une pollution de ces eaux. Donc il y a une pollution environnementale et de son plan sanitaire que nous n'avons pas toutes les statistiques, nous n'avons pas pu rentrer en contact avec toutes les entités sanitaires, les hôpitaux, les centres de santé qui vont nous fournir ces données réelles pour pouvoir confirmer ou estimer ce que nous sommes en train de dire.
Voilà le directeur du CIAPOL, Centre ivoirien anti-pollution, professeur Bernard Osseyapo, était en ligne avec Francis Cassi. Autre chose dans cette édition, la Côte d'Ivoire a accordé à 5 compagnies minières 9 nouveaux permis de recherche dans le nord-ouest et dans l'est du pays, délivrés pour une durée de validité de 4 ans. Et ces permis concernent l'or, le nickel, le chrome, le cobalt et les terres rares. Depuis cette déclaration, le FPI, le Front populaire ivoirien, dit s'inquiéter des conséquences sur les populations de cette zone et sur l'environnement de façon générale. Là-dessus, on écoute la vice-présidente du FPI chargée de la région du Boclet, de l'écologie et du développement durable, Antoinette Coucougnon.
L'extraction en Côte d'Ivoire, par exemple, quand on regarde le ratio, on se rend compte que ça ne profite pas aux populations. Les zones qui sont parcourues ne profitent pas véritablement. Il n'y a pas un indice de développement sur ces zones-là. C'est pour ça qu'on dit que ça ne peut pas contribuer au développement d'une région. À côté de cela, on sait les produits chimiques qu'on utilise pour faire ce type d'extraction. Donc, c'est pas forcément avec une pioche et une pelle. Il y a des produits chimiques, par exemple, pour l'or. Pour faire ressortir l'or, on utilise, par exemple, du cyanure. Ça a un impact sur la santé des populations, ça a un impact sur la nappe phréatique et même les végétaux, il y a les animaux aquatiques et tout ça. Donc, on se dit que si on peut octroyer un permis à une entreprise qui rapporte au tonnage beaucoup d'argent au pays, mais on ne peut pas multiplier jusqu'à 9 et puis aller parcourir la moitié est du pays. Ça veut dire que dans toutes les contrées, on va avoir et les clandestins qui vont fouiller le sol avec tous les risques que ça comporte, les risques d'éboulement et les entreprises certifiées qui vont venir creuser tout ça. Donc ici, ça participe de la déforestation. La palette est grande, hein. Il y a même les risques environnementaux, il y a même la destruction des sols, il y a la recomposition des sols. Et donc, quand vous fouillez là, qu'est-ce que vous faites? Il y a des villages qui vont être délocalisés. Même si la fouille là, c'est pas dans l'immédiat, mais il y a des risques. Ça va forcément avoir un impact.
Voilà la vice-présidente du FPI chargée de la région du Bois-Clair, de l'écologie et du développement, durable, Antoinette Cocougnan. Parlons de la 18e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière qui a démarré hier mercredi et qui va s'achever le 10 juillet prochain. Elle a pour thème conduit par temps de pluie, les précautions à prendre. Junior Cardet était au lancement de cette campagne. Voici son compte-rendu.
Le premier à prendre la parole au lancement de cette campagne est le tout nouveau directeur général de l'Auxerre, Office de sécurité routière, Étienne Kouakou, qui est revenu sur les résultats des 17 éditions passées au niveau des activités de terrain.
Nous avons verbalisé pour des infractions graves 114 980 véhicules. 10 952 véhicules ont fait l'objet de mises en fourrière. Vitesse excessive, 28 098 infractions détectées. Le téléphone au volant, 5466 cas. Les tests d'alcoolémie sur 2733 personnes testées, 109 ont été positifs. Et non port de la ceinture de sécurité, 61 009 cas d'infraction.
Pour la 18e édition, il est revenu au chef de service campagne de sensibilisation de l'Auxerre, Irie Bi Raphaël, d'énumérer quelques précautions à prendre quand on doit conduire en ces temps de pluie.
Il faudrait que nous ayons de bons essuie-glaces et de bons balais. Deuxième élément, nous devons disposer de bons pneus et de bons phares. Il faut aussi avoir de bons systèmes de freinage. Un autre point sur lequel nous devons être méticuleux, c'est de réduire la vitesse en temps de pluie. La visibilité étant réduite.
Le président de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire, Touré Adama, s'est réjoui que tous les acteurs des transports soient associés à la campagne en cours.
Le départ de celui dont on se plaint, du Baka, du Wororo, du Ka, du propriétaire du gros camion, c'est dans une gare. C'est nous qui vivons au quotidien avec eux. Nous savons qu'est-ce qu'ils avalent et comment ils sont au volant. C'est pas l'alcool seulement, hein. L'alcool test là peut pas détecter le grémou, le bleu.
Les gares routières et les motocyclistes vont faire l'objet d'attention particulière durant cette campagne.
Dans l'actualité internationale au Mali, au moins 21 villageois ont été tués à Guiguimbongo dans la région de Bambadiara, dans le centre du pays, lors d'une attaque survenue lundi en fin d'après-midi attribuée à la Katiba Massina du Jnim, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. 21 corps ont été retrouvés, si criblés donc de balles ou égorgés, mais on signale aussi des disparus qui peuvent avoir fuir ou avoir été tué ou capturé. L'armée malienne et ses supplétifs de Wagner sont présents à Bandiagara, à moins de 20 km de Guiguimbongo. En sport football, le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 sera effectué tout à l'heure à partir de 12h30 en temps universel à Johannesburg en Afrique du Sud. Les nations les mieux classées seront le dernier. Selon le dernier classement de la FIFA, occuperont le pot 1 composé de la Côte d'Ivoire avec le Maroc, pays organisateur, le Sénégal, l'Égypte, la Tunisie, le Nigeria, l'Algérie, le Cameroun, le Mali, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo et le Ghana. Sans transition à présent, l'invité de la rédaction, Jean-Claude Comé-Reçois, le juriste et expert en droit immobilier, Jean-Louis Lobé, pour parler de la loi en matière locative en Côte d'Ivoire adoptée récemment en conseil des ministres entretien.
Monsieur Jean-Louis Lobé, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Il y a un projet de loi qui a été proposé par le gouvernement. Le projet de loi détermine les procédures applicables aux contentieux relatifs donc au bail, à usage d'habitation et à l'exécution aussi des décisions d'expulsion d'un immeuble. Simplement, qu'est-ce qu'on doit comprendre par ces termes juridiques?
On doit comprendre que le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, a compris les lenteurs que nous avons en matière d'exécution, en matière de rendu de décision devant les tribunaux. Vous avez un locataire qui vous doit, vous le conduisez devant les tribunaux. Au lieu qu'on vous libère aussitôt, vous pouvez passer 6 mois, 1 an devant la justice. Ce qui emmène beaucoup de bailleurs aujourd'hui à recourir à une justice privée. Ils se rendent justice parce qu'ils estiment que la justice n'a plus lieu d'être et qu'elle est lente. Donc, monsieur le garde des Sceaux, conscient de ce fait-là, de ce problème-là, a décidé de prendre ce projet de loi pour instituer une procédure spéciale adaptée à la question des contentieux locatifs. Parce que jusqu'ici, on appliquait le code de procédure civile et le code de procédure civile ivoirien n'imposait pas aux juges ivoiriens des délais pour pouvoir statuer sur les contentieux liés au bail d'habitation qui leur étaient soumis.
L'une des dispositions justement de ce projet de loi, c'est donc simplifier et accélérer la gestion de ce type de contentieux, donc à usage d'habitation et professionnel aussi. Explication.
Mais déjà tout de suite, il y a deux points focaux dans ce projet de loi. Il y a un point qui est relatif au contentieux locatif et il y a un point qui est relatif à l'exécution de la décision qui va suivre le contentieux locatif. Alors sur le premier point qui est relatif au contentieux locatif, si vous prenez le code de procédure civile qu'on appliquait jusqu'ici, on n'a imposé aucun délai au juge pour rendre la décision. C'est-à-dire vous saisissez le juge aujourd'hui, il va appeler à la première audience votre affaire. Il n'y avait aucune disposition de la loi qui lui disait, monsieur le juge, vous avez tel délai pour rendre la décision. Désormais, on va limiter le délai pour le juge de rendre la décision. Exemple, le locataire ne paye pas, vous saisissez le juge des référés. Désormais, on dira à ce juge des référés, hein, vous avez 15 jours à compter de votre première audience pour rendre la décision. Donc ça va permettre aux justiciables, aux parties, d'avoir vite une décision. Mais ensuite, je viens au tribunal. Désormais, le tribunal a 2 mois pour rendre la décision. C'est-à-dire que si vous saisissez le tribunal pour pouvoir condamner votre locataire à payer les loyers et à partir, on dit que vous saisissez le tribunal. Le tribunal a 2 mois pour rendre la décision. Au pire, le tribunal pourra proroger sur une ordonnance du président du tribunal, 2 mois, c'est-à-dire au pire 3 mois. La cour d'appel aura 3 mois pour rendre la décision. La cour de cassation qui est saisie sur une demande de sursis 15 jours. Je veux dire de façon résumée sur le point relatif au contentieux locatif que l'apport de ce projet de loi sera de raccourcir les délais en matière de rendu des décisions pourrait avoir l'effet de rééquilibrer les choses. Parce que vous voyez, on facilite l'accès au logement aux locataires. On dit 2 mois de dépôt de garantie, 2 mois d'avance. On dit que pour pouvoir expulser, il faut lui adresser avant une lettre de résiliation. On a un peu corsé la procédure d'expulsion. Il faut lui adresser une demande de résiliation. Après la demande de résiliation, il faut la signer devant le tribunal. Ça fait beaucoup de frais, ça rend la procédure longue. Et donc si on a fait tout ça, qu'on vient encore devant le juge et qu'on n'impose pas un délai d'action au juge, le bailleur qui souffre encore de payer les impôts a le sentiment d'une injustice que nous appelons en droit une injustice contractuelle.
Est-ce à dire que ce projet de loi est plus dans le sens de permettre au bailleur d'entrer en possession de son bien sans trop souffrir? C'est comme ça qu'on doit comprendre la chose?
Peut-être un peu, mais pas comme ça. On doit dire que ce projet de loi, en tout cas s'il est adopté, il viendra pour rééquilibrer les droits et devoirs des parties. Et si vous lisez l'exposé des motifs de M. le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, vous remarquerez qu'il rappelle qu'il y a une lenteur dans la gestion du contentieux entre les protagonistes du bail à usage d'habitation, mais également des difficultés liées aux procédures d'exécution des décisions judiciaires en la matière.
Alors, pour terminer, cette procédure prévoit une mise en œuvre des mesures d'exécution sur la décision éventuelle d'expulsion par les commissaires de justice et pour assurer une protection accrue des intérêts des parties. Qu'est-ce à dire?
Alors, il faut dire tout de suite que quand une décision est rendue, elle doit être exécutée. Et quand vous prenez notre code de procédure civile, il revient à l'huissier, qu'on appelle aujourd'hui commissaire de justice, de porter à la connaissance, par exemple, du locataire la décision rendue. Mais on n'avait pas un délai. Désormais, dans ce projet de loi qui venait à être adopté, on donne 8 jours au locataire pour s'exécuter. Donc, on connaît aujourd'hui le délai à la suite duquel le commissaire de justice peut procéder à l'expulsion de ce locataire.
Merci à vous, M. Jean-Louis Lebey, pour ces éclairages.
Merci infiniment à la Radio de la Paix.
Voilà, le juriste et expert en droit immobilier Jean-Louis Lebey était avec Jean-Claude Comé dans le cadre de l'invité de la rédaction. Voilà qui referme les pages de ce journal, le rappel des titres. Le président de la commission électorale indépendante a échangé hier mercredi avec les étudiants de l'université Alassane Ouattara de Boaké sur les élections. Coulibaly Cuibière Ibrahim a donné deux raisons pour lesquelles l'on doit faire confiance à la CEI. La première étant sa composition inclusive et la deuxième concernant les garanties quant à l'exécution de la mission. Spectre d'une pollution au cyanure dans le fleuve Cavalli, selon le professeur Bernard Osseyapo, directeur du Centre Ivoirien Anti-Pollution. Les équipes sont sur le terrain pour confirmer les données sur l'impact sanitaire et les examens ont confirmé qu'il y a eu une pollution des eaux. Enfin, dans l'actualité internationale au Mali, au moins 21 villageois tués par le GNIM à Guigui-Bongo dans la région de Bamba-Diara, dans le centre du pays. Fin de cette édition de l'actualité sur Radio de la Paix. Prochain rendez-vous, 15h. Tout de suite, la revue de presse avec Justin Koulibaly.
Bonjour. Au sommaire de cette revue, on parlera environnement, diplomatie et vie des partis politiques.